Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Pour les commissaires, ce matin, un premier sujet, Québec qui va dépenser plus de 600 millions en 5 ans pour protéger et promouvoir le français. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va fonctionner? Nathalie.
C'est la grande question, Paul. Le gouvernement sort l'artillerie lourde de 603 millions de dollars sur 5 ans. C'est beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a probablement plusieurs Québécois qui ont grincé des dents fin de semaine compte tenu de l'envergure de cette annonce. C'est une méga annonce, non seulement par son montant, mais par le nombre de ministres mobilisés. Moi, je n'ai jamais vu une conférence de presse un dimanche après-midi avec 6 ministres qui participent à un événement comme celui-là, un événement de communication publique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et vraiment, ça démontre à quel point la CAQ tient à l'enjeu lié aux Français. D'ailleurs, le gouvernement tente de se consolider depuis 2018 comme étant le gouvernement dans l'histoire, comme étant le plus grand défenseur de la langue française au Québec, rien de moins. M. Legault est très ambitieux par rapport à sa volonté, non seulement de défendre notre langue commune, mais d'éviter son déclin. D'ailleurs, j'ai remarqué un changement de ton en fin de semaine. Le ministre que tu as eu d'ailleurs à ton micro tout à l'heure, Jean-François Roberge, il a dit « Nous passons l'offensive non pas contre qui que ce soit, mais pour regagner le terrain perdu. » Alors pour moi, il y a un changement de ton. En fait, on ne fait pas ça contre qui que ce soit. Là, on pense entre autres aux immigrants, mais on fait ça ensemble pour regagner le temps perdu. Le ministre François Roberge est très optimiste. Lui, il prétend que ce plan d'action qui contient 9 grandes priorités, 21 mesures, va réussir à inverser le déclin du français. Alors, je veux le croire que ce sera possible d'inverser le déclin du français, mais admettons que le coefficient de difficulté est très élevé.
Moi, je trouvais que ça avait l'air d'une brochette de généraux ukrainiens après la prise d'Albica.
T'exagères.
Ben, on va gagner. Ouais, OK. Ouais, bravo pour la bonne foi, là, mais qu'est-ce que tu veux? Le défi est pas mal plus gros que vous le pensez, là. Puis, moi, je suis abasourdi par la demande, par l'annonce. Il n'y a rien de bon là-dedans. Bon, rien. C'est pas compliqué. Ben, 320 millions, d'abord, à moins que je comprenne pas, hein. Je comprends pas tout dans la vie, fait que peut-être qu'on pourrait me l'expliquer. 320 millions pour les travailleurs temporaires. Ben, tu sais, d'abord, il y a quelques 350 000 travailleurs temporaires, là. Puis on accepte environ 55 000 nouveaux immigrants par année, sauf les catégories investisseurs puis étudiants. Fait que là, 325 000 d'un bord, puis de l'autre bord, on en accueille peut-être une 40 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui vont retourner chez eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pourquoi on forme aux Français des gens qui vont retourner chez eux? Je veux dire, bon, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, puis qui s'intéresse pas aux résultats, mais je pose la question. Deuxième affaire, ces personnes-là sont arrivées sur le territoire appelées par un employeur. Hein? Donc, c'est pas l'apprentissage du français qui va leur fournir un emploi. Ils ont l'employeur qui les a fait venir. Ça fait déjà qu'ils parlaient l'anglais. Fait que je me pose la question, ben, l'anglais ou une autre langue. Puis, je me pose la question que j'ai pas la réponse. D'autre affaire, quand tu regardes toutes les autres annonces, ben, c'est du réchauffé, hein. C'est en grande partie comme toute l'annonce sur la culture. On va être plus présent dans les médias sociaux. On va être plus présent. On va avoir de la découvrabilité, là. La découvrabilité, c'est lorsque tu vas sur Netflix ou si tu vas sur une autre plateforme et que les contenus francophones québécois te sont proposés au même titre que les autres contenus ou quand tu vas dans les applications comme TikTok ou quoi que ce soit ou quand comment. Ça fait je sais pas combien de temps que la loi C-11 est sur la table puis qu'on essaie de gérer ce problème-là au fédéral. Là, le provincial dit, mais moi, j'ai une recette qu'il n'annonce pas. J'ai bien hâte de voir c'est quoi la recette. Quand on dit que nos jeunes passent...
Non, ils se contentent de dire qu'ils ont eu des avis juridiques qui leur permettent de croire que...
Ben écoute, peut-être qu'il y a une piste là, mais... Bien hâte de voir, moi, que TikTok, il va y avoir plus de Français québécois sur TikTok. Parce que, tu sais, on dit que nos jeunes passent trop de temps sur leurs écrans. Avez-vous regardé ce que vos jeunes regardent? Y a-t-il beaucoup de contenu québécois là-dessus?
Non. Et on parle des francophones aussi, là.
Oui, francophones aussi, mais bon, français, il y a plein d'humoristes français en ce moment qui se font les dents, mais du contenu québécois sur les shorts, les reels, les TikTok. J'ai hâte de voir ça, là. J'ai hâte de voir c'est quoi leur recette miracle. Quant à l'annonce sur le budget qui va être donné pour acheter des livres aux professeurs, vont avoir 300$ pour acheter des livres. Écoute, c'est l'insondable, l'insoutenable superficialité de l'être, là. Je peux dire, on se rend compte quand on regarde les chiffres que le français, en règle générale, ça va pas si mal. Par contre, quand tu regardes les jeunes, c'est affligeant, là. C'est affligeant, la proportion des jeunes. Écoute ça. Le taux, le pourcentage de personnes qui utilisent principalement le français au travail est passé de 81% à 79%. Tu dis, il y a rien là. C'est correct. Mais ce même taux est de 70% à Montréal et 53% chez les jeunes de 18 à 34 ans. Là, c'est ce 53%-là qui est inquiétant. Vraiment inquiétant. Langue de travail, langue parlée à la maison. En donnant des livres à l'école, tu as un budget de 300$ pour l'achat de livres. Tu sais, c'est genre de petites mesures.
La langue parlée à la maison, pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que si j'habitais en Allemagne puis j'avais appris l'allemand pour travailler, je continuerais à parler français probablement à la maison.
Je suis bien d'accord avec toi, sauf que, à long terme, on voit pas de participation à la vie culturelle ou la vie de tous les jours des Québécois. Si tu choisis une autre langue à la maison, et c'est ce qui se passe, puis je suis bien d'accord avec toi, que les Mexicains parlent l'espagnol à la maison, on n'est pas surpris. C'est une langue magnifique. Puis d'ailleurs, maintenant, c'est renforcé par le fait qu'ils gardent beaucoup de liens avec leur communauté d'origine, notamment la télévision, notamment les médias sociaux, etc. D'accord. Ceci étant dit, on n'est pas dans un modèle d'intégration fort, là.
Non, ça c'est vrai. Mais même avec les francophones, qu'est-ce que tu veux? La culture, là. Oui, il y a des phénomènes, là, Arnaud Soli, puis il y en a plein, là, sur les réseaux sociaux. Mais les jeunes francophones ne consomment pas beaucoup autant de produits culturels québécois qu'on voudrait. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, écoute, il y a un immigrant qui m'a appris, il m'a écrit l'autre jour, il m'a dit la chose suivante, puis Nathalie, je veux t'entendre là-dessus. Il a dit, moi, j'ai débarqué au Québec, j'ai appris le français. Difficilement parce que fallait que je travaille. Mes enfants sont allés à l'école francophone. Ils parlent français, anglais et sa langue d'origine. Ils peuvent se débrouiller, ils peuvent travailler, puis ils peuvent vivre à Montréal en français, mais ils ne connectent pas avec la culture québécoise, comme beaucoup de leurs amis québécois de souche aussi.
C'est pas juste les Québécois issus de l'immigration, les Québécois, les jeunes Québécois de souche, comme on les appelle, là, ils n'ont aucun complexe de consulter des contenus en anglais. Pour eux, français, anglais, là, ils n'ont aucun problème. Mais là où je partage ton scepticisme, Luc, c'est sur l'obligation, effectivement, d'imposer à des Spotify, Netflix, la création des contenus francophones. Ça, je sais pas. Je peux bien croire qu'on veut être créatif sur le plan constitutionnel, mais je ne sais pas comment on va y arriver. Là, je crois où le gouvernement fait la bonne chose, c'est lorsqu'il consacre plus de la moitié de son enveloppe à la francisation des travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est très, très bien. Il dit, on va embaucher plus de professeurs, on va pouvoir rejoindre le plus grand nombre de travailleurs étrangers temporaires. Bravo, mais ça va prendre plus de flexibilité. Pour ce qui est d'enseignement de la culture québécoise, parce que c'est de ça, Paul, dont tu parles, comment intéresser nos jeunes à la culture québécoise? Christiane, notre ami docteur Christiane Laberge m'a envoyé un message ce matin. Elle dit, là, Jean-Pierre Ferland vient de nous quitter, les cow-boys fringants, il n'y a pas si longtemps. Pourquoi, par exemple, dans nos écoles secondaires, 4e, 5e secondaire, on ne fait pas faire des dictées à nos élèves dans les classes en lien avec les chansons? C'est-à-dire, tu sais, tu fais une dictée, là, bon, la chanson, une chance qu'on sort, voici les paroles, on fait une dictée avec les chansons de Ferland, les cow-boys fringants. On invite les jeunes à choisir une chanson qui pourrait faire l'objet d'une dictée. Ça, les amis, ça coûte zéro cent.
Oui, mais Nathalie, il y a plein d'enseignants qui font déjà ça. Et c'est, tu sais, ça fait...
Il faut le valoriser, mon cher Luc.
Oui, mais quand tu as TikTok d'un bord puis la dictée de l'autre bord, on peut pas penser qu'on est dans une culture dominante du français, là.
Faut arrêter de rêver. Les jeunes, ils vont continuer de consommer du contenu en anglais.
C'est clair.
Et malgré toutes les campagnes de publicité là, qu'on va déployer, ça ne changera pas.
L'Ontario, le ministre de l'Éducation, a annoncé hier qu'il va interdire que le Wi-Fi serve de relais pour les réseaux sociaux pendant l'école. C'est pas juste pas de téléphone à l'école, là.
Génial.
Il fait ça pour les élèves du primaire. D'abord, je comprends pas qu'un élève du primaire ait son téléphone. Déjà en partant, ça, c'est un peu bizarre. Mais au secondaire, l'interdiction va être dans les cours. Fait que ils pourront pas, puis t'auras pas accès à l'école, aux réseaux sociaux.
Moi, en fait, le message, c'est faites-vous chier comme nous, on s'est fait chier. Puis ça, ça va développer votre créativité. Puis c'est vrai. C'est vrai qu'à force de s'ennuyer, tu finis par faire un mauvais coup ou rencontrer quelqu'un ou développer une idée ou aller faire une revendication, une grève, quelque chose. Oui, c'est, si tout le monde n'est pas comme des zombies sur leur téléphone. Quant à moi, pour revenir sur l'annonce d'hier, là, c'est un concours de citations par des ministres un dimanche.
Mais non, t'exagères, Luc. Il y a quand même une volonté. Il faut, faut quand même que t'admettes que le gouvernement.
C'est la méthode Marcel Léger.
Comment ça?
Marcel Léger faisait toujours une conférence de presse le dimanche en sachant que les médias n'étaient pas occupés.
Ah, c'est ça.
Et il pouvait faire le front le lundi matin. Et souvent, ce qu'il faisait aussi. Non. Il m'avait dit ça, j'étais mort de rire. Il disait pas, il a déjà annoncé ça jeudi, mais personne ne l'a remarqué. Fait que je vais le réannoncer dimanche. Fait que ça faisait
ben,
une belle nouvelle.
Oui, dans le 187 millions pour la culture, ben, il avait oui. déjà été annoncé il y a trois mois
ben, oui,
par la
ben,
compte.
Oui. Faut répéter des fois.
Ben, oui.
Bon, au retour, est-ce que les grandes bannières d'épicerie doivent obligatoirement dire voici, ces produits sont affectés par la réduflation?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, le sac de Doritos qui finalement est plus vite que jamais, ou encore d'autres produits qui sont affectés par ce qu'on appelle la réduflation. En France, il y a une réglementation, puis on a même vu la grande chaîne Carrefour dire « voici, on l'affiche, il y en a moins dans le sac et ça vous coûte plus cher ». Est-ce qu'on devrait avoir le même genre de pratique commerciale ici dans les épiceries?
Luc? On en reparle alors qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps pour la bonne raison que depuis, le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ayant appris ce qui se passe en France, a dit « Ah, ben c'est un no-brainer, nous autres aussi. » Genre, tu sais. Donc, il devrait y avoir quelque chose qui s'en vient. Son attaché Audrey Champoux a dit « Quand on a vu la nouvelle, on s'est dit c'est un no-brainer. Ottawa donc entend pousser sur des provinces pour qu'elles emboîtent le pas à la France. » Bon, donc on aurait quelque chose en cours de route dans cette direction-là. Moi, je suis perplexe. Bon, faut dire que l'étiquetage, ça a fonctionné. Hein. Il y a eu énormément d'évolutions sur l'étiquetage, mettons, dans les 30 dernières années. L'étiquetage, les ingrédients précis, la part de d'huile hydrogénée, par exemple, la part que ça de ta consommation quotidienne que ça représente, les hydrocarbures, je pense pas à l'environnement. Les carbs.
Les glucides,
etc. Le pays de provenance, c'est important, le pays de provenance, oui. Pour les achats locaux, etc. Donc, ça a beaucoup indiqué, évolué, puis peut-être que ça peut évoluer encore. Bon, maintenant, de l'autre côté, le poids net indique déjà la réduction. Moi, je pense, on est-tu vraiment besoin que l'État, parce que tu sais, nous autres, là, le lundi, on déclare que l'État, c'est des maudits socialistes, on veut rien savoir, il y a trop de fonctionnaires, puis le reste de la semaine, on demande à l'État d'en faire plus. Ça c'est notre
politique. C'est nous autres.
C'est nous autres, hein. Fait que donc est-ce que vraiment l'État doit aller indiquer voici le point net a changé, check là, regarde là où c'est marqué point net, ben l'autre fois c'est marqué 386, là c'est marqué 341. Ou bien tu l'achètes puis tu dis ben suis-je satisfait ou je ne suis pas satisfait. Moi je pense que un moment donné, il faut se poser des questions sur l'importance, l'implication de l'État dans tout et pour tout. Par ailleurs, ça peut facilement être contourné. Donc c'est une spécialiste de l'Université Laval, Marie Côté-Amel, qui disait ben, ils vont changer les recettes, ils vont changer l'emballage, ils vont changer le nom, ils vont faire quelque chose pour dire que ce produit-là, c'est pas le même que la dernière fois que c'était le même produit. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Pas pour la boîte de Ritz que tu es habitué de voir puis que tu prends sans réfléchir. Celle-là, c'est vrai que elle va pas changer. Parce qu'il y a un trademark, il y a une marque de commerce reconnaissable par la boîte, sa couleur, etc. Mais tout le reste, là, ils vont le contourner.
Réduflation, quand tu nous tiens, comme dirait notre ami Jacques Gourde, un scandale. Mais c'est pas libéral, celui-là. Ça fait longtemps qu'il existe, depuis les années 90. Tout d'abord, il faut savoir à qui va servir cette obligation que souhaite imposer le ministre François-Philippe Champagne. Là, bien sûr, on parle d'une possibilité. Là, on est encore dans les hypothèses. Premièrement, est-ce que cette obligation va servir les intérêts du ministre, qui, lui, n'arrive pas à convaincre les grandes bannières d'épicerie d'en faire davantage pour soulager le portefeuille des consommateurs? Rappelez-vous, un bras de fer qui opposait le ministre aux grandes bannières l'automne dernier. Les grandes bannières sont allées à son bureau. Il les menaçait même sur le plan fiscal. Il y a des gestes qui n'étaient pas posés. Alors, ils sont même allés en commission parlementaire. Et ce sont les représentants des grandes bannières se sont défendus. Puis l'exercice est terminé de quelle façon? Point, point, point. Patate, les amis. La démarche du ministre a fait patate. Ou encore, est-ce que cette démarche servirait les intérêts des consommateurs qui, eux, seraient mieux informés de sur quoi mieux aviser face à des produits visés par la réduction? population. Dans un cas comme dans l'autre, tu l'as dit, Luc, il faut pas, il faut éviter de minimiser la faisabilité de la chose. La France le fait, mais la France a tellement de longueur d'avance sur nous. Ils ont une loi anti-gaspillage. Cette mesure va entrer en vigueur le 1er juillet 2024. Et ce qui est intéressant, parce qu'en faisant mes petites recherches hier, je me suis rendu compte que à partir du 1er juillet, si un consommateur français est lésé, il y a une application, en fait, un lien qui existe, s'appelle Signal Conso. Fait que Signal Conso, tu peux signaler toutes sortes d'affaires que tu as vues. T'as l'impression que tu t'es fait rouler dans la farine dans une telle épicerie pour un tel produit, t'as acheté tel bien, enfin bref. Ils ont une démarche qui est assez complète. Mais dans ce cas-ci, la meilleure façon, la façon dont ont trouvé les consommateurs de contourner la réduflation, c'est quoi? Ben, c'est en magasinant les rabais puis les spéciaux. Écoute, c'est devenu une nouvelle façon de consommer, qui est celui d'aller d'une application à l'autre, de comparer les prix d'une épicerie à l'autre. On a complètement changé nos habitudes sur la façon dont on fait nos épiceries au fil des années à cause de l'augmentation des prix en épicerie. Depuis la pandémie, là, c'est fou. Premièrement, c'est fou à quel point le nombre d'applications a fleuri, a émergé dans notre vie. Et ça fait une grande différence. Alors, honnêtement, moi, je suis terminée, je perdrai pas trop mon temps avec ça parce que les grands joueurs de l'industrie alimentaire, ben c'est 80% du marché, faut-il le rappeler. C'est 5 grands groupes, le Loblaw, Sobeys, Metro, Costco puis Walmart. Puis honnêtement, ils ont aucun intérêt, eux, avec leurs fournisseurs, à mettre des étiquettes pour dire le sac de Doritos est passé de 200 grammes à 185 grammes. Pourquoi? Parce que le fournisseur de Doritos, lui, il va peut-être se retrouver avec des ventes moindres. Alors, pensez-vous que les fournisseurs ont intérêt à collaborer à une mesure qui contribuerait à réduire leur chiffre d'affaires? Posez la question, c'est répondre.
Puis par ailleurs, c'est le nombre d'inspecteurs. Moi, le nombre d'inspecteurs,
oui, aussi,
ça m'inquiète
ben oui.
beaucoup.
Comment
là.
Tu mets ça en œuvre?
Dans chaque
œuvre,
petite épicerie, oui. Tu sais, à Maniwaki, sac de chips, là, tu l'as pas indiqué.
Mais c'est quoi? Les auditeurs et les consommateurs le savent. C'est-à-dire que moi, tous les jours, quand je parle de ça, là, Paul, il manque 2 tranches de fromage dans le paquet de. Il y en avait 22 avant. Ils le savent parce que
c'est 24, Paul, c'est rendu à 22.
Bon, c'est ça. Fait que là, tu t'en rends compte. Puis là, tu te dis, écoute, dans le sac de chips, il n'y a rien là-dedans. Fait que, tu sais, tout ça est assez connu des consommateurs. Puis, Nathalie a raison. Ils font quoi, les consommateurs? Là, on l'a vu la semaine passée avec les chiffres de Statistique Canada. Ils vont chez Walmart, ils vont chez Costco, puis ils vont dans les grandes surfaces qui appartiennent à Métro, comme, Super C, Maxi, Provigo, puis tout ça. Fait, les gens attendent pas une intervention du gouvernement. Les gens qui ont besoin de gérer, serrer le budget, ils vont aux endroits où il y en a le plus pour l'argent. C'est aussi simple que ça.
Puis il faut que tu sois bon, hein, parce que tu vas t'acheter des papiers de toilette, tu essaies de comparer, il y en a un, c'est 36 rouleaux de telle taille, l'autre, c'est 24 rouleaux de telle autre taille.
C'est comme un forfait cellulaire, tu essaieras de magasiner ça.
Ah ouais, c'est ça, exactement.
T'sais, c'est dur à suivre, puis les forfaits de banque aussi, c'est assez compliqué. Mais je pense que les gens... T'sais, ils savent.
Il y a une connaissance. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur les vrais scandales d'affichage, comme par exemple les poissons? Combien de poissons, c'est connu ça que 80... À un moment donné, il avait fait une étude, il y avait 50% des poissons qui n'étaient pas ce qu'ils étaient censés être. T'sais, c'était du poisson d'élevage, c'était pas du poisson sauvage, puis c'était du flétan, c'était pas de la sole. Le béton, c'était plutôt du tilapia, c'était pas de la sole. Il y a eu un scandale sur le chocolat, puis ça a été modifié par l'affichage. Maintenant, c'est écrit bar chocolaté, parce que ça rend compte qu'il y a moins en moins de chocolat, puis plus pantoute à un moment donné. Fait que là, ils ont changé le nom. Mais néanmoins, tu sais, il y a vente dans le même sac, le même affichage, etc. Mais il y a eu un scandale du chocolat. Le beurre dont la recette a changé, sans qu'on comprenne pourquoi. Et je rappelle à toute notre auditoire que c'est mon frère Vincent qui était le premier à dire « le beurre a changé
». Mais Luc, on pourrait faire plus, puis là-dessus, on pourrait s'inspirer de la France. Les produits français, maintenant, nous, on a l'étiquette nutritionnelle, mais eux, ils ont ce qu'on appelle le Nutri-Score, A, B, C, D, E, OK? Alors, ton produit, s'il y a A, bien évidemment, il est bon pour la santé, ainsi de suite. Ça, on n'a pas ça au Québec. Moi, j'ai découvert une application et je vous partage ma découverte. Je suis totalement emballée. Ça s'appelle Yuka, Y-U-K-A, pour les aliments et pour les cosmétiques. En fin de semaine, je vais à la pharmacie, là, je me cherche des trucs cosmétiques et je scannais le produit puis ça me disait sur 100, c'était bon, mauvais, excellent, médiocre. Et j'ai passé du temps à l'épicerie, vous dire, les amis, cette semaine. Ben oui, parce que c'est extraordinaire. Par exemple, je suis dans l'allée des craquelins. Là, je voulais, bon, nouvelle marque de craquelins, ils ont l'air intéressants. Je canne le produit médiocre, genre 39 sur 100. Oui. Alors, j'ai dit, ben, tu comprends-tu que j'ai remis à boire sur les tablettes? Puis c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Vous essayerez ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Yuka, Y-U-K. Donc, ça rendrait service aux consommateurs. Dans un contexte où on cherche davantage, tu sais, à consommer non seulement de meilleurs aliments, mais en avoir aussi pour notre argent. Tu sais, les Français, ça s'appelle Nutri-Score. Bon, mais c'est, et là, c'est ABCDE avec un code de couleur. Alors, si c'est vert A, enfin, c'est extraordinaire. Moi, quand tu t'achètes, Luc, toi qui es friand de produits là, français, parisien dans ta vie que tu as été, ben là, tu regarderas ça. C'est les produits importés français, Nutri-Score.
Nutri-Score, bon, checker ça, merci.
En avant, oui, c'est ça de ton produit, là. Ouais, voilà.
Bon, là, je reçois des photos de sacs d'épicerie, puis de sacs de biscuits, puis de sacs... Des différences avant et après.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, non.
Il y en a-tu un que, c'est-tu écrit sur certains sacs, ont uniquement des chips cassés? C'est-tu écrit, parce que ça arrive?
Alors, écoute, partons en recours collectif, Luc, mon cher Luc, action collective contre les chips cassés.
Je veux prendre deux secondes, parce que Jean-Pierre Ferland est décédé en fin de semaine, on va en reparler tantôt. Mais il y a un endroit à Montréal qui rend hommage à Jean-Pierre Ferland, Fleur de Macadam, et qui est l'auteur, qui a permis cette réalisation?
Luc, l'ancien maire du plateau.
Es-tu l'ancien maire du plateau?
Avec son équipe, hein? Toute l'équipe avait contribué. Parce qu'au début, on voulait que ce soit Jean-Pierre Ferland, puis après ça, on a dit, ah non, ben, il est pas mort. Puis, ben, après ça, ben, c'est son père. C'est son père qui avait le garage qui était là avant.
Oui.
Et donc, qui était fort connu là, dans le quartier. Alors, on a choisi... Puis lui avait composé une chanson sur le plateau, Fleurs de Macadam, qui indiquait qu'il y avait des fleurs qui poussaient, puis c'était des fleurs un peu fragiles, entre les craques du trottoir dans le béton. Et il habitait sur Chambord, je pense. Alors, la place s'appelle Fleurs de Macadam. Allez voir ça sur Mont-Royal, superbe.
On va défaire un tour. Est-ce qu'on peut y aller à pied, en vélo, en auto? Ou...
Tu peux pas te stationner autour.
C'est 23.